Imaginez donc un organe du corps humain pourtant parfaitement décrit et étudié depuis l'Antiquité qui jusqu'en 2016 ne serait représenté que de façon extrêmement parcellaire et tronquée dans l'intégralité des manuels de biologie à destination des collégiennes et des collégiens. Quel est donc cet organe mystérieux qui est pourtant unique en son genre, qu'une grande partie de l'histoire humaine a tâché d'oublier, de reléguer, de minimiser l'importance, et ce jusqu'à des jours encore très récents. Cet organe qui est le seul du règne animal à être exclusivement dédié au plaisir, c'est le clitoris, et c'est à lui que nous nous intéressons en cette journée internationale des droits des femmes. Clitoris, au bonheur des dames, c'est le programme anatomique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous parler de cet organe, de sa découverte, de sa compréhension et des raisons historiques, de sa sous-représentation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Chaperon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès, membre senior de l'Institut universitaire de France, spécialiste de l'histoire des femmes, et Laura Berlingot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue-obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et autrice de « Une sexualité à soi ». C'est aux éditions des Arènes, mais avant de vous retrouver, on fait le tour de l'actualité scientifique du week-end et de ces derniers jours avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature. Désormais, l'activité humaine influence l'ensemble du cycle mondial de l'eau.
Oui, on peut penser que le cycle hydrologique de l'eau, la circulation et les fluctuations de l'eau sur notre planète, de l'évaporation aux précipitations, on peut penser que ce phénomène est strictement naturel. Pour la première fois, cette étude prouve l'inverse et montre l'impact des humains sur ce cycle mondial. Une équipe américaine a utilisé pendant 22 mois l'altimètre laser du satellite ICESat-2 de la NASA. Les chercheurs ont ainsi observé avec précision et au gré des saisons plus de 220 000 réservoirs d'eau douce dans le monde, des grands lacs et des petits étangs. Alors c'est le plus grand ensemble de données jamais enregistré et il se trouve que la majorité des flux et reflux d'eau douce de notre planète sont contrôlés par l'être humain. 57% des changements saisonniers du stockage global de l'eau dans le monde se produisent dans des réservoirs contrôlés par les humains, par les barrages hydrauliques notamment. L'humanité est donc aux commandes du cycle de l'eau.
Et si vous voulez retrouver bien cette étude, et comme toutes les études dont il va être question, ainsi qu'évidemment des compléments d'écoute, hein, ça peut être des graphiques, des représentations, des schémas, bref, tout ça c'est sur notre fil Twitter tout au long de l'émission comme d'habitude et en direct sur le fil @laméthodefc que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon un commentaire paru dans la revue Nature, si les pays riches continuent de s'accaparer les vaccins contre le Covid-19, la pandémie pourrait durer 7 ans de plus.
Et à la mi-février, 191 millions de vaccins ont été administrés. Or, les trois quarts de ces doses ont été reçues dans seulement 10 pays. Dans ce papier, cet expert de santé publique a utilisé la théorie des jeux pour montrer comment le nationalisme vaccinal est finalement autodestructeur. Selon lui, il faut que les pays plus riches partagent le plus possible leurs doses pour augmenter l'approvisionnement mondial en vaccins, avec par exemple, pour 9 doses administrées, une dose offerte à COVAX, le programme de l'UNICEF et de l'OMS. Il est aussi rappelé qu'une épidémie de Covid n'importe où peut devenir une épidémie partout.
Selon une prépublication sur le site Archive, une exoplanète plus chaude que la plupart des étoiles aurait été détectée.
Une équipe américaine a analysé 10 ans d'observation du système Vega, une étoile à 25 années-lumière de nous. Selon ce papier, une exoplanète en fait le tour en 2,43 jours. Ce serait un Jupiter chaud, sa masse fait 20 fois celle de la Terre. Elle est 10 fois plus proche de son étoile que Mercure autour du Soleil. Et Vega est aussi 60 fois plus lumineuse que notre astre. Avec une telle proximité, la température de surface de cette exoplanète est de 3000 degrés Celsius. C'est la deuxième exoplanète la plus chaude jamais détectée. Elle est plus chaude que la plupart des naines rouges, les étoiles les plus abondantes de notre galaxie.
Et enfin, selon une étude parue dans Scientific Reports, les grottes de Grins... Ah là là, c'est difficile ça. Je ne sais pas. Je ne vais pas y arriver. Gnarlsholm. Allez, Gnarlsholm en Allemagne sont peut-être l'une des origines de la domestication des loups.
Oui, c'est bien, c'est la bonne prononciation. Hein. Et c'est peut-être là, dans ces grottes du sud-ouest de l'Allemagne, que les loups sont devenus des chiens. Dans une approche pluridisciplinaire, hein, une équipe internationale a analysé plusieurs fossiles de canidés, des chiens domestiques, des loups et des renards, et des fossiles vieux de 14 000 à 16 000 ans. Les analyses montrent une grande diversité génétique. Les génomes couvrent toute la diversité génétique des chiens et des loups modernes. Les premiers humains qui vivaient là ont apprivoisé et élevé des animaux de diverses lignées de loups. Alors le débat sur l'origine unique du chien domestique n'est pas clos, mais les canidés de Gnirschol sont les représentants d'une phase précoce de la domestication du loup.
La fameuse grotte de Gnirschol, merci beaucoup pour ce petit chausse-pied, Natacha. Je vous le ferai payer au centuple dans les jours prochains. Merci en tout cas pour ce journal des sciences. On vous retrouve demain et les jours suivants pour le journal des sciences. En 2016, une étude rapporte qu'une jeune fille interrogée sur 4, 25% donc de ces jeunes filles, ne connaîtrait pas leur clitoris. Et pour cause, il faut attendre 2017 pour qu'un manuel scolaire de SVT choisisse pour la première fois en France de représenter correctement et dans son intégralité le clitoris sur les planches dédiées à l'appareil génital féminin. Or, cette absence n'est pas la conséquence d'une ignorance, mais d'un choix finalement relayé, assumé de ne pas faire figurer cet organe au complet, de ne pas s'intéresser c'est tout compte fait à cet organe féminin qui est pourtant le seul que l'on connaisse aujourd'hui dans tout le règne animal à être strictement et simplement dédié au plaisir. On doit le retour en grâce du clitoris à une urologue australienne à la fin des années 90, on y reviendra. Pour autant, l'anatomie et les fonctions clitoridiennes sont tout à fait connues et discutées d'ailleurs en ces termes dans l'heure de la culture française. Nous sommes sur la radio diffusion française en février 1968.
Anatomiquement, la femme possède finalement un double système sexuel. Elle possède un système que j'appellerais un système purement et simplement de plaisir, et elle possède un système de reproduction. Cette dualité fait que déjà, elle est plus complexe que l'homme qui a un seul système qui lui donne à la fois plaisir, reproduction, et même qui est un système démonctoire, c'est le même organe qui sert à tout. Chez la femme, il y a d'une part, tout un système qu'on appellera érectile, qui est constitué exactement comme un système sexuel masculin, simplement c'est plus petit. Mais c'est constitué de la même manière, et il m'est arrivé quelquefois, en matière de plaisanterie, d'ouvrir un livre d'anatomie sur une coupe d'organes génitaux féminins, là où ce système érectile est suffisamment grossi pour qu'on ne sache pas de quoi il retourne. Je demande à un camarade médecin qu'est-ce que c'est, et il me dit évidemment c'est un pénis. Or ce n'est pas un pénis, c'est un clitoris avec son système érectile qui est tout simplement grossi pour qu'on voit comment il est fait. Bien sûr, ce petit clitoris est plus petit que l'organe masculin, mais si on compte, et certains anatomistes l'ont fait, si on compte le nombre de nerfs qui peuvent transmettre des sensations voluptueuses, pour la femme, il en part de tout cela. Il en part aussi bien de son clitoris que de l'ouverture de son vagin, c'est-à-dire la vulve, que de tous les ligaments qui sous-tendent, qui suspendent l'utérus, les trompes et les ovaires. Et lorsque tout cela se met à fonctionner ensemble, évidemment, ça apporte finalement au cerveau une masse de sensations d'une énorme puissance comparée à la quantité de nerfs qui innervent l'organe sexuel masculin.
Voilà cette description du clitoris en février 1968. Une réaction peut-être l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Sylvie Chaperon ?
Oui, alors je ne sais pas qui était la personne qui parlait, une sexologue, une gynécologue, j'imagine. Alors moi ça m'étonne pas, hein, le clitoris, il est connu des médecins, des biologistes, des physiologistes depuis très longtemps. Donc c'est peut-être plus par pudeur qu'on le voit moins représenté et parce que les questions sexuelles restent tout de même largement choquantes. Mais les professionnels de la santé le connaissent parfaitement.
Laura Berlingot sur cette archive.
Oui, moi je mettrai un bémol hein, sur les professionnels de la santé le connaissent parfaitement. Je pense que vraiment il y a quand même la question de comment est-ce que sont représentées, comment sont transmises les connaissances. Et notamment là, je me demande quand elle dit on fait un focus, on a l'impression que le clitoris est un pénis. Je me demande si elle parle de la partie externe du clitoris, donc des 10% hein, qui sont vraiment le gland clitoridien, ou si elle parle de l'ensemble du clitoris. J'en suis pas sûre, c'est pas évident dans ce qu'elle dit. Donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment important de effectivement déjà de dire d'être assez complet dans les descriptions, mais aussi de, on en parlera plus tard, je pense, dans l'anatomie, de dire exactement de quoi on parle.
L'intervenante en l'occurrence était, elle était psychosomaticienne ou quelque chose comme ça. Enfin, son titre n'était pas tout à fait clair. C'était pour répondre ou en tout, attaché de médecine psychosomatique. Voilà son titre exact. Peut-être aujourd'hui pour continuer sur finalement ce fait qui est, quand on l'observe de manière extérieure, assez aberrant de se dire que cet organe n'était pas représenté correctement jusqu'à il y a moins de 5 ans. Aujourd'hui, Laura Berlingot, tous les manuels scolaires ont rectifié leur iconographie.
Alors, j'ai pas été vérifier tous les manuels scolaires, mais effectivement, en 2017, il y a eu le précurseur Magnard qui a commencé. En 2019, il me semble que c'était 7 manuels sur 9 au collège et au lycée. Donc, oui, j'imagine que, après, ils font pas des nouvelles éditions tous les ans, mais j'imagine que c'est un petit peu la mode aussi maintenant de se mettre à la page de ça. Et je pense que autant Magnard à l'époque avait vraiment fait figure, de pionnier, autant maintenant, je pense que, après justement le rapport dont vous avez parlé de 2016 de l'HCE qui a ouais, recommandé vraiment ça, je pense que ils se sont tous mis à la page. Oui.
Sylvie Chaperon, comment est-ce que vous expliquez finalement que des manuels scolaires, jusqu'à une époque si tardive, n'aient pas pris... Alors, pour leur défense, ils disaient si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait une partie du clitoris qui était représentée de manière schématique, etc. Enfin, comment vous expliquez qu'on en soit arrivé à cet état de fait aussi tardivement, quoi?
Alors, le clitoris était représenté, oui, mais pas en coupe et pas la représentation triplanaire où on voit la structure interne du clitoris. C'est-à-dire qu'on représentait en fait le gland clitoridien à l'ouverture de la vulve et c'était tout. Tandis que le pénis, effectivement, était davantage représenté. Je pense que c'est aussi parce que... Là, on parle des manuels scolaires, hein, pas des manuels, évidemment, des étudiants de médecine. Je pense que c'est que nous n'avions pas, et d'ailleurs nous n'avons toujours pas, une véritable éducation à la sexualité. C'est-à-dire qu'il était plus important, au vu du programme de l'éducation sexuelle, de représenter les trompes, l'utérus, le vagin, parce qu'on parlait de maladies vénériennes, on parlait de reproduction, mais on parle pas de plaisir dans l'éducation sexuelle, ou très peu. Donc les représentations étaient liées aussi à l'usage pédagogique qui en était fait, tout simplement.
Laura Berlingot, vous dites dans votre livre ces statistiques de 25% des jeunes filles qui disaient ne pas connaître leur clitoris, c'est vous qui l'a cité. Vous pensez qu'aujourd'hui cette méconnaissance a reculé? Vous citez même votre exemple à vous-même en disant que vous avez découvert vous-même très tardivement cette anatomie complète, telle qu'on va l'expliquer d'ailleurs dans quelques minutes, du clitoris.
Oui, voilà, c'est toujours un petit peu provocateur quand je dis ça, hein, parce que effectivement, il y a deux choses différentes. Il y a les manuels d'anatomie pour les étudiants en médecine, et effectivement, les manuels pour les étudiants, enfin les collégiens et les lycéens. Moi, je l'ai appris très tard parce que je pense que vraiment, ce qui est devenu un petit peu l'objet clitoris, qui a été très popularisé par les modèles en 3D, d'Odile Philo notamment, par des vidéos aussi d'Odile Buisson, qui l'a mis en situation, en fait. Hein. Moi, je pense que vraiment, à partir du moment où c'est devenu un objet, c'est là qu'on a vraiment pu l'appréhender et que en faire un petit point sur un manuel, effectivement, ça ne permet pas de l'appréhender. Est-ce que maintenant, depuis 4 ans, ça a changé? Il me semble que oui, énormément, hein, que justement, depuis 5 ans maintenant, en 2021, et notamment il y a 2 ans, donc le 8 mars, il y a 2 ans, en 2019, il y avait une grande campagne qui avait été lancée qui s'appelait It's Not Bretzel et qui avait affiché, placardé des clitoris dans tout Paris. Et je pense que voilà, participer à c'est devenu ce que les Inrocks ont appelé un objet pop, ou un objet un totem, une sorte de nouvel emblème d'une nouvelle révolution sexuelle féministe. Et oui, je pense que c'est que, comme toutes les représentations culturelles, en devenant un objet pop, en devenant une représentation culturelle, il entre effectivement dans les têtes, dans les représentations.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et nous parlons à 16h15 du clitoris tout au long de cette heure en compagnie de Sylvie Chaperon et de Laura Berlingot. On peut justement regarder ça d'un point de vue historique pour commencer avec vous, Sylvie Chaperon, puisque on a pu entendre que finalement le clitoris aura été découvert un peu comme ça ex nihilo dans les années 60. Or, pas du tout. On trouve des traces très très anciennes, même dans des premiers traités d'anatomie dans l'Antiquité, Sylvie Chaperon.
Alors, dans l'Antiquité, il n'y a pas d'anatomie à proprement parler, même si on découpe les animaux pour savoir exactement comment ils sont faits. Mais le clitoris est nommé dès l'Antiquité, mais là, on parle du clitoris externe, hein, c'est-à-dire cette petite boule, ce petit gland apparent. Hein, et ça, c'est Rufus d'Éphèse tout au début de notre ère. Et après, l'anatomie, elle apparaît véritablement en Occident à la Renaissance, et c'est là qu'il va y avoir la découverte progressive, non pas du clitoris, qui était tout à fait connu, mais du corps interne et par la suite des bulbes, qu'on va d'ailleurs appeler d'abord les bulbes du vagin, puis les bulbes du vestibule, puis les bulbes du clitoris, quand on aura enfin compris le rôle qu'il joue dans le système érectile, justement. Mmh. Donc, il y a eu une progression du savoir sur le clitoris, tout à fait, on va dire, parallèle à la progression du savoir et aux différentes spécialités médicales, physiologiques qui se sont développées. Pour autant, et ça je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui, les publications ou les travaux ou les recherches sur le clitoris sont beaucoup moins importantes que celles sur le pénis. Alors bien sûr, le pénis, ça n'est pas que un organe érectile, c'est aussi un organe urinaire, il a d'autres fonctions, mais quand même, il y a un écart très très important qui est lié tout simplement au fait que la science est faite par des hommes, avec une vision androcentrée, et donc même si le clitoris, sa connaissance a progressé tout au long du temps, ça reste tout de même inférieur au savoir sur le pénis. La question de l'érection, par exemple, elle est très peu travaillée par les physiologistes.
On va en parler vraiment du versant anatomique dans quelques minutes, mais j'aimerais qu'on explore un peu justement cette découverte et puis dont on va voir qu'elle est un peu en demi-teinte, on découvre et puis finalement on recache, etc. Peut-être un mot aussi, Sylvie Chaperon, sur l'étymologie de clitoris. C'est une étymologie grecque, je sais qu'elle est un peu discutée. Est-ce que vous savez trancher ce débat de l'étymologie du mot?
Non, disons que les philologues aujourd'hui s'accordent davantage pour relier ce terme au mot de clé, mais d'autres parlent aussi de colline. Il y a plusieurs étymologies qui peuvent... Et Rufus emploie le verbe clitoriser, qui veut dire caresser lascivement. Donc il y avait un verbe au moment de l'usage grec de ce mot, clitoris.
Laura Berlingot, vous avez des éléments de réponse à cette étymologie. Il y a une autre étymologie qui dit petite colline pour clitoris en grec. Est-ce que vous savez vous trancher cette question ?
Non, c'est pas dans mon domaine, je passe cette question.
D'accord, alors on y reviendra plus tard. Peut-être quelque chose d'intéressant aussi, Sylvie Chaperon, avant la Renaissance, c'est que au Moyen-Âge, il y a un lien, c'est-à-dire qu'il va être difficile pour la médecine de comprendre exactement la fonction de cet organe, c'est-à-dire que pendant un moment, au Moyen-Âge, on pense que tout de même, bien le clitoris, on comprend que c'est évidemment lié au plaisir, mais que le plaisir peut également être lié à maximiser les chances de grossesse. On ne sait pas très bien encore s'il faut coupler ou découpler cet organe du reste de l'appareil reproducteur.
Ah oui, alors ça, tout à fait, parce que on est les héritiers d'un savoir qui est hippocratique. Hein, le corpus hippocratique, c'est très ancien, ça date du 5e, 4e siècle avant notre ère, et qui a été répété continuellement, tout simplement parce qu'en Occident, nous avons une culture profondément grecque, gréco-latine. Et pour Hippocrate, le clitoris, il n'existe même pas, il n'est même pas mentionné. Dans tout le corpus hippocratique, il n'est pas fait mention du clitoris. En revanche, le plaisir féminin est très présent, mais il est lié à la matrice, à cette matrice vorace qui veut absorber le sperme de l'homme et qui est représenté comme un organe sexuel, pas seulement de reproduction. Et ça, on va le traîner pendant des siècles, parce qu'on a toujours cette référence hippocratique. Donc le clitoris ne va se détacher détacher des enjeux reproductifs que très très progressivement et très tardivement. Je dirais que vraiment ça n'est fait que au 18e, 19e siècle.
Et alors justement, c'est à partir du 18e, 19e siècle, c'est-à-dire finalement au moment où, eh bien après la Renaissance, après les premières dissections, on connaît de mieux en mieux eh bien la structure exacte de cet organe, eh bien c'est au moment où on commence à le connaître le mieux que on va eh bien finir par essayer de le dissimuler, de cacher, de dire en tout cas de dire que c'est finalement le clitorisme, le plaisir, l'onanisme, c'est mal, et donc de ne plus considérer cet organe comme quelque chose de digne d'étude. Sylvie Chaperon.
Alors, au XIXe siècle, non. Et d'ailleurs, l'urologue que vous avez cité, hein, O'Connell, qui en 1998 fait ses représentations triplanaires du clitoris, cite Cobbett comme étant, donc Cobbett c'est le milieu du XIXe siècle, comme étant un des auteurs qui a le mieux représenté D'accord. le clitoris. Mmh. Donc on peut dire que des années 1850 jusqu'à nos jours, hein, le clitoris peut être représenté, là encore, quand on parle des spécialistes de l'anatomie et de la physiologie. En revanche, ce qui se passe, c'est à la fin du XIXe siècle, mais là on est dans des discours plutôt de psychologues, de psychiatres, de simples médecins et non pas d'anatomistes, et puis bien sûr tout ça va être, il y aura la surenchère freudienne là-dessus, où on commence effectivement à dénigrer le clitoris comme étant un organe plus de libertinage, plutôt qu'un organe de la femme mariée vertueuse. Donc il y a une espèce de poussée de pudeur, une poussée de qui vise aussi à identifier complètement la femme à la mère. Et là, le clitoris subit un certain discrédit. Pas chez les anatomistes, parce que le savoir est cumulatif quand même, hein,
bien en anatomie. Sûr.
Mais effectivement, dans d'autres domaines scientifiques.
Oui, c'est d'où la croisade contre l'onanisme, hein, pour dire que l'onanisme est évidemment dangereux, qu'il peut rendre les femmes sourdes, épileptiques ou évidemment hystériques, hein, puisque c'est censé être le grand mal féminin du 19e siècle. Et vous parliez effectivement de Freud, qui a un rôle assez désastreux dans le lien qui peut être fait entre plaisir féminin et clitoris.
Oui, alors Freud n'invente pas hein, le double orgasme vaginal et clitoridien. C'est pas une invention freudienne. Kraft et Bing en parlent déjà. Hein. Il dit que la petite fille, son organe de plaisir, c'est le clitoris, mais la femme déflorée, mariée, son organe de plaisir devient le vagin. Donc Freud reprend une tradition qui existait déjà, relativement récente, mais par contre, il va lui donner un poids énorme parce que tout simplement sa théorie va irriguer pendant des décennies. Des publications de psychologues, de psychiatres et bien sûr de psychanalystes. Donc pour lui, le clitoris est un organe infantile, d'ailleurs phallique, et la femme mûre, si elle a un développement psychosexuel jusqu'au bout hein, de sa maturité, doit renoncer au clitoris. Ou plus exactement, le clitoris ne doit servir que d'allume-feu, en quelque sorte, de starter, mais le reste, ça doit se passer dans le vagin. Ça, c'est le plaisir de la femme mûre. Et malheureusement, les femmes psychanalystes vont renchérir aussi. Hein. Hélène Deutsch ne dit pas différemment que Freud sur tous ces sujets-là. Et là, il va falloir attendre vraiment les années 1930, 1940 pour que des auteurs qui n'ont pas la traduction freudienne, qui n'ont pas la tradition freudienne, mais sont plutôt formés par la physiologie et l'anatomie, s'insurgent contre cette idée-là. Et bien sûr, Kinsey va le faire de façon tout à fait massive.
Laura Berlingot, peut-être un mot sur l'histoire et sur le début de cette histoire contemporaine, c'est-à-dire le post-freudisme et la réhabilitation progressive du clitoris dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Non, mais je pense que c'est quelque chose qui est souvent dit, hein, qu'en focalisant un peu sur la sexualité reproductive et qu'en découvrant qu'effectivement ovocytes et spermatozoïdes n'avaient absolument pas besoin de plaisir biologiquement pour provoquer un embryon, il y a une part de l'invisibilisation de ça. Après, moi, ce qui m'interroge aussi là-dedans quand j'entendais cette histoire, c'est cette dualité que l'on fait entre clitoris et vagin, et on va en reparler dans l'anatomie, mais qui a peu de sens physiologique et anatomique, en fait, de faire une telle dualité, de faire des objets qui sont tellement à part.
Bah alors justement, si vous voulez bien, on peut passer à l'anatomie. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un clitoris? On a tous certainement aujourd'hui, je le souhaite en tout cas, en tête cette image que vous appelez triplanaire. On va évidemment la mettre, et on en a déjà posté plusieurs images sur notre fil Twitter. Est-ce que, Laura Berlingot, vous pouvez la décrire et nous en décrire non seulement les différentes parties, mais aussi le fonctionnement anatomique précis?
Oui, alors je peux la décrire, mais effectivement, si vous avez partagé des photos, c'est bien, parce que c'est toujours beaucoup plus difficile de décrire l'anatomie par la voix, à la radio, qu'avec une photo, quand même, ça aide beaucoup. Donc le clitoris, oui. En fait, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans le clitoris, c'est effectivement donc, cette photo qu'on peut s'en faire. Alors donc, avec en haut le gland clitoridien, donc le gland qui est à la vulve, qui est externe, qui est recouvert par un capuchon, et que la plupart du temps, c'est ça la représentation du clitoris quand on l'a fait pas en entier, c'est la partie externe. Donc, la partie qui est en haut de la vulve, au-dessus de l'urètre. Donc l'urètre, c'est le méa urinaire, c'est le petit trou par lequel l'urine sort, donc qui est en dessous, au-dessus le clitoris. Et de là, donc comme on peut dire, voilà, ce qui pourrait être un mini pénis. Hein, moi, je trouve que ça n'a pas trop de sens de faire cette comparaison, mais en tout cas, qui peut avoir cette impression, qui remonte à l'intérieur et qui se poursuit de manière symétrique par des piliers, donc qui sont des grandes branches qui sont fines et à l'intérieur donc des bulbes et qui ont été rattachées ou pas selon les époques hein, effectivement au clitoris. Et il y a des gens qui parlent de complexe bulbo-clitoridien ou de complexe clitoridien pour parler de l'ensemble de tout ça.
Allez-y, je vous en prie.
Et rapidement, juste ce qui est très intéressant, je trouve là-dedans, et d'où c'est pour ça que moi je dis souvent qu'il faut regarder des vidéos qui montrent le clitoris au repos, le clitoris lorsqu'il est stimulé, le clitoris lorsqu'il y a une pénétration. C'est vraiment ces rapports anatomiques à l'urètre, au vagin, à l'ensemble en fait du pubis, à l'ensemble du périnée. Il y a 8000 terminaisons nerveuses, mais ces terminaisons nerveuses, elles ne sont pas ni que dans le gland, ni que il n'y a pas un endroit où elles peuvent se situer. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, qu'on ne saura peut-être jamais sur le clitoris. En tout cas, voilà, il y a des choses. On ne sait pas tout de l'anatomie de manière générale, de l'anatomie du clitoris non plus, mais ce que je trouve voilà, intéressant, c'est justement tous ces rapports avec le reste de l'anatomie, et finalement cette dualité qu'on a fait pendant très longtemps, et enfin il y a vraiment une époque même très très récente hein, sur l'orgasme vaginal versus l'orgasme clitoridien, avec très récemment des féministes aussi qui disaient mais en fait l'orgasme vaginal n'existe pas car tout est clitoridien. Bah, dire que tout est clitoridien, je trouve qu'il y a aussi quelque chose là-dedans qui est un peu faux, parce que lorsqu'il y a une pénétration dans le vagin, il y a aussi une stimulation du clitoris. Même si, et donc, du coup, on se dira, bah, c'est un orgasme clitoridien, si on veut, mais c'est assez. Je trouve que ces simplifications, en fait, ne sont pas très. Elles n'apportent pas grand-chose au débat. Je pense.
Peut-être un mot sur le fonctionnement, c'est-à-dire puisque on a parlé de corps caverneux, enfin on va en parler plutôt de corps caverneux, de zone érectile. Comment est-ce que cet appareil-là fonctionne quand il est stimulé, puisque et puis on reviendra après sur la question de la terminologie, ou en tout cas effectivement la comparaison avec le pénis qui est certainement un peu fastidieuse à force, et donc on va essayer de voir comment la contourner. Mais comment ça fonctionne finalement un clitoris, Laura Berlingot?
Un clitoris sous l'effet d'une stimulation, effectivement, donc il y a des corps caverneux, des corps spongieux qui se gorgent de sang et qui donc font une érection hein, de la même manière que qui se gorgent de sang et au moment en fait de la stimulation, qu'elle soit externe ou interne, le clitoris donc devient plus grand, participe à la lubrification de l'ensemble du vagin et de la vulve. Il y a un afflux sanguin à l'intérieur notamment. Et voilà, enfin, globalement, c'est ça ce qui se passe au niveau local.
Au niveau local. Et en termes de terminaison nerveuse, vous disiez qu'on ne sait pas encore tout. On a quand même un certain nombre de documentations sur l'endroit et sur les différentes terminaisons de ce qu'on appelle le nerf dorsal du clitoris. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot?
Oui. Non, mais je trouve que c'est... Enfin, c'est... Je sais pas qu'on parle de... Je trouve que cartographier ça comme si on savait exactement si on touche là, ça fait ça. Bah non, enfin c'est pas du tout. Et non mais c'est vrai. Je trouve que cette vision de c'est dangereux même parce que et c'est bien pour ça que le même acte physique, selon les conditions de sa réalisation, sera vécu de manière extrêmement différente en fait. Oui, il y a des nerfs, mais enfin tout n'est pas et dans la biologie, enfin dans la jouissance liée au clitoris, c'est loin d'être tout biologique, et heureusement.
Sylvie Chaperon, est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques à faire sur, eh bien, sur l'anatomie, sur le fonctionnement et sur la façon dont on le comprend aujourd'hui ?
Alors, sur la façon dont on le comprend aujourd'hui, moi étant historienne, bon, je suis pas experte sur les dernières découvertes ou les dernières publications sur le sujet. Simplement, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment le fait que la science a été construite d'abord et surtout par des hommes, influe sur le savoir scientifique. Et notamment, le fait que le clitoris soit comparé à un petit pénis, ça c'est quelque chose qui est tout à fait massif, hein, qui est répété indéfiniment, à tel point d'ailleurs que on peut supposer que pour Freud, le clitoris était vu comme un organe masculin dont la femme adulte devait se dessaisir. Hein. Le fait de répéter sans arrêt que le clitoris est un petit pénis, et les anatomistes depuis le XVIe siècle le répètent, a pu produire des effets comme ça dans la science. Et puis également le peu de soucis que les anatomistes et les physiologistes montrent vis-à-vis de l'érection du clitoris. L'érection du pénis, on en fait des tartines. C'est terrible. L'impuissance, c'est absolument l'horreur, et on invente des tas d'appareils, et on fait... Mais l'érection du clitoris, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Et personne ne s'interroge d'ailleurs sur sa nécessité par rapport au plaisir. Faut-il que le clitoris soit érigé pour qu'il y ait un orgasme ? Ça, c'est une question qui n'apparaît absolument pas dans le discours scientifique. Donc c'est assez intéressant, parce que là encore, c'est le fait que l'érection soit tellement associée au masculin que finalement, pour les femmes, ça devient une question scientifique sans objet. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse un peu dans la construction de la science, c'est en quoi le fait qu'elle soit produite par une certaine catégorie de personnes dans un certain contexte, ça permet ou ça ne permet pas d'énoncer certaines hypothèses.
Laura Berlingot, sur ce sujet, c'est effectivement passionnant, oui.
Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que effectivement, on voit dans les, alors déjà de manière générale, il y a beaucoup moins d'études scientifiques sur la sexualité dite féminine, contrairement à la sexualité masculine. Et au-delà de ça, enfin, effectivement, je m'inscris vraiment dans cette lecture où on reproduit aussi les stéréotypes de genre avec ça, parce que avec cette focalisation sur l'érection donc du pénis et cette catégorisation médicale de la dysfonction érectile du pénis, hein, on ne parle pas de dysfonction érectile du clitoris. Alors effectivement, peut-être que il y a un tiers des hommes, hein, des propriétaires de pénis qui vont connaître la dysfonction érectile. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement fréquent, qu'on catégorise comme pathologie. On n'en parle pas chez les femmes, donc voilà, là n'est pas la question. Et on en fait, il y a toute une prise en charge, notamment une pharmacologie, hein, qui est autour de ça. Et ça va aussi dans l'idée de la sexualité un petit peu mécanique aussi des hommes et la sexualité plus psychologique des femmes. Et ça contribue à reproduire ces stéréotypes de genre aussi, de catégoriser les choses comme ça. Je ne dis pas qu'il faut inventer un médicament pour l'érection du clitoris, hein, mais je dis que les réfléchir comme ça, en tout cas, ça pose question.
Est-ce qu'on sait, pour répondre à cette question directement, si une dysfonction érectile du clitoris est liée à une absence ou à une diminution de l'orgasme ?
Ah non, on n'en a aucune idée.
À ma connaissance, il n'y a pas de publication sur le sujet.
Non. Il
n'y a pas de recherche là-dessus.
Et alors, quand je vous parlais, Laura Berlingot, des questions de déterminaison nerveuse, hein, sans forcément rentrer dans quelque chose qui serait purement fonctionnel, mais est-ce qu'on a une idée ou une notion, en tout cas, de la nature physiologique de l'orgasme ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe finalement, le lien entre le clitoris, le système nerveux central, et finalement, puisqu'on n'arrête pas d'entendre de dire que le clitoris serait effectivement une sorte de sous-produit du pénis ou je ne sais quoi, ce qui est évidemment aujourd'hui une erreur énorme, on voit bien pourtant que la structure et la nature de l'orgasme féminin et masculin sont radicalement différents et que ce sont bien deux organes qui fonctionnent de manière différente.
Alors je vois pas trop ce que vous voulez dire dans « sont radicalement différentes » en tout cas, moi, c'est pas ma lecture de la sexualité ni de l'orgasme. Quand on voit qu'il y a des personnes qui peuvent jouir en étant caressées sur le pli du coude ou que... Et le plaisir anal, par exemple, que ce soit chez les hommes ou les femmes, ça ne procède pas des mêmes choses, mais pour autant, la jouissance est vraie aussi. Je pense que... le discours que je préfère avoir autour de ça et qui me semble moins à la fois réducteur et aussi essentialisant à cette idée de moi, l'idée que le clitoris serait le pourvoyeur ultime d'orgasme féminin, je trouve que c'est un peu pauvre comme lecture et que ça n'ouvre pas les possibles non plus, ça n'ouvre pas les scripts sexuels. Et je trouve qu'au contraire, on a tellement, ces dizaines dernières années, fait une focalisation sur l'érection masculine, sur l'éjaculation masculine, le pénis comme alpha et oméga de la sexualité masculine. Aujourd'hui, justement, on dit plutôt, essayons d'ouvrir les possibles, essayez de voir un petit peu ailleurs dans votre corps. Et en fait, la jouissance et l'orgasme, on sait que ce n'est pas rattaché seulement à un seul organe ou à une seule pratique, et que c'est aussi hautement lié à nos au contexte, à nos représentations du désir, à cette intellectualité qu'on a aussi. Hein. C'est pas quelque chose de magique, on frotterait le clitoris. Non, mais je le dis,
oui, parce qu'il y a
aussi cette idée, c'est quelque chose qui malheureusement aussi revient, parce que comme le clitoris, on en parle beaucoup, et on parle aussi beaucoup de sa partie externe, hein, finalement, parce que c'est ça qui est le plus accessible finalement dans les pratiques sexuelles. Et tout cette idée qu'en frottant le clitoris, toutes les femmes vont jouir. Attention, non, pas du tout. Hein. C'est pas parce qu'il y a des terminaisons nerveuses sur le clitoris qu'il suffit de les frotter pour jouir. C'est quand même plus complexe que ça. Et de la même manière que la sexualité liée au pénis, c'est probablement plus complexe aussi et que on l'appauvrit avec nos discours aussi qui restent centrés sur quelque chose de mécanique.
Sylvie Chaperon, vous voulez rebondir là-dessus ?
Oui, alors bon, moi je vais pas me lancer dans des théories physiologiques, j'en ai pas du tout les moyens, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'inverser les comparaisons, parce qu'on a beaucoup dit, comme on l'a répété pendant cette émission, que le clitoris était un petit pénis, ce qui a fermé effectivement à la compréhension quand même de cet organe, mais j'aimerais maintenant qu'on pense au pénis comme un grand clitoris, par exemple. Qu'est-ce que ça ouvre dans l'imaginaire ? Et notamment, ça permet de déconnecter la sexualité de la pénétration aussi, de dire ça. Donc voilà, on est peut-être passé à une étape où on va relire aussi le pénis.
On continue à parler du clitoris tout au long de cette heure. On va également se poser des questions en matière d'évolution, puisque le clitoris n'est pas présent que chez l'être humain, bien au contraire. On en parle dans un instant. Connection Loss de Césaria à 16h39 sur France Culture. Nous parlons du clitoris tout au long de cette heure en compagnie de Sylvie Chaperon, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès, et Laura Berlingot, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors je vous le disais, se pose évidemment la question évolutive du clitoris. Pourquoi cet organe a-t-il été retenu et conservé, et quand et pourquoi est-il apparu ? Autant de questions qui intéressent le laboratoire Mécanismes adaptatifs et évolution du Muséum national d'histoire naturelle, où vous vous êtes rendue, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Nicolas. Oui, je suis allée voir Emmanuel Puydebat, qui est biologiste de l'évolution. L'évolution qui est une approche intéressante pour étudier l'occurrence, la variation et la fonction de cet organe à travers différentes espèces. En faisant ainsi de l'anatomie comparée, combinée à de l'éthologie, de l'évolution, voire de l'épigénétique, on pourra enfin produire des connaissances sur son origine et son rôle, qu'on ramène toujours uniquement à celui du plaisir. Le clitoris est-il uniquement une affaire de plaisir? Un point de vue qu'elle tente de questionner à travers notamment l'étude de l'os clitoridien, qui semble être un élément clé dans la résolution de cette question.
Donc ici, on est à Mécadev, et on est sur la partie parisienne de Mécadev, où on s'intéresse beaucoup à l'évolution morphologique et aux coévolutions en lien avec l'écologie. Il y a une partie du laboratoire qui est à Brunois, qui est dans l'Essonne, où il y a notamment un élevage de microcèbes, où on a à peu près 500 individus de ce petit primate. Voilà.
Ici, on a des collections aussi, mais elles sont malheureusement inaccessibles aujourd'hui.
Oui,
on est entouré d'espèces fossiles. Oui.
On est entouré de collections anatomiques, soit des pièces molles, soit des squelettes, y compris des opéniens et des os clitoridiens.
Vous êtes biologiste de l'évolution, entre autres, mais vous êtes aussi intéressé à cet organe du clitoris dans différentes espèces, pour voir que ce n'est pas une spécificité humaine, bien évidemment.
Oui, non, complètement, le clitoris n'est pas l'apanage des humains. Il y a une longue évolution, puisqu'on sait aujourd'hui que les femelles crocodiles ont des clitoris. Donc c'est probablement un héritage très ancien au cours de l'évolution, probablement plus de 300 millions d'années. D'ailleurs, ce qui est rigolo chez les crocodiles, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un clitoris, parce qu'on avait du mal à distinguer les mâles des femelles dans les élevages. Et c'était important pour l'accouplement. Au départ, on pensait qu'il n'y avait que des pénis. Et c'est vrai que le clitoris, au niveau embryonnaire, c'est un peu le même développement. C'est le pendant du pénis, finalement. Donc on a eu du mal à distinguer un petit peu les deux. Mais le clitoris, non, ça existe chez tous les mammifères, au moins chez tous les mammifères, avec plein de mystères qui sont encore à résoudre. Et en étudiant aussi quelque chose qu'on connaît très peu, y compris chez les biologistes, c'est l'os clitoridien. On sait que les mâles, certains mâles chez les mammifères ont un os pénien, mais on sait peu que les femelles aussi peuvent avoir un os clitoridien.
C'est le cas dans quelles espèces? Vous parliez du crocodile, mais on le retrouve chez des mammifères aussi?
Alors, a priori, l'os pénien, il existe essentiellement chez les mammifères. Je dis essentiellement parce que comme il y a toujours des exceptions, je me méfie. Donc, il est essentiellement chez les mammifères, mais on ne sait pas pourquoi chez certaines espèces, il y en a, chez certaines espèces, il n'y en a pas. Et là, je viens de déposer un sujet de thèse sur le sujet, parce qu'en fait, la première question à laquelle il faut répondre, c'est qui en a, qui n'en a pas. Et après, essayer de comprendre si c'est lié aux comportements sexuels qui sont associés, ou si c'est lié à des phénomènes plus complexes qui sont fascinants à étudier, de coévolution, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que le clitoris et l'os clitoridien a évolué en fonction de l'évolution du pénis et de l'os pénien? Ça, on n'en sait rien. Voilà. Tout reste à découvrir encore, assurément.
Et on pourra aussi comprendre s'il y a des facteurs d'ordre environnementaux ou plutôt génétiques qui influent sur l'apparition de cet os pénien et éclairer sur sa fonction.
Complètement. La fonction de l'os pénien, on la connaît un petit peu. Ça permet de prolonger l'accouplement. On sait aujourd'hui que malheureusement, les ours polaires, par exemple, ont l'os pénien qui est abîmé à cause des changements environnementaux. Ils ont plus de problèmes pour s'accoupler. Est-ce que c'est le cas aussi pour l'os clitoridien? On n'en sait rien. Donc là, il faut vraiment creuser la question, si j'ose dire. Et il faut aussi bien comprendre cette fonction, si vous voulez, du clitoris. Elle est souvent sous-estimée. J'entends encore en permanence qu'il n'y a pas de fonction dans l'accouplement, il n'y a pas de fonction dans la reproduction, c'est juste un organe du plaisir. Je suis convaincue que non. C'est un organe qui est utile chez certaines espèces. Il est très, par exemple, chez les hyènes, on sait très bien que le clitoris, il a un lien direct dans l'accouplement et dans l'amélioration de l'accouplement.
Il est très très développé chez la hyène.
Il est extrêmement développé.
Il ressemble à un pénis avec des testicules.
Exactement, il ressemble vraiment à un pénis. C'est le cas aussi chez le fossa. C'est un mammifère qui vit à Madagascar, qui est un grand prédateur de nos lémuriens qu'on étudie aussi. Et donc les femelles ont un comme les singes attelles aussi, elles ont un clitoris qui est hypertrophié et qui a un rôle comportemental majeur. Par exemple, chez les fossas, les jeunes femelles s'en servent pour l'exhiber et montrer aux autres mâles qu'elles sont peut-être des mâles, en fait, et ça leur permet d'être moins harcelées aussi.
Donc c'est un signe d'agressivité, de dissuasion?
Oui, c'est un signe de dissuasion. C'est-à-dire, vous regardez, j'ai un pénis, laissez-moi tranquille. C'est un peu ce que ça veut dire. Hein. Et c'est aussi, j'ai un pénis, laissez-moi tranquille, pour les femelles dominantes, qui sont aussi les femelles, les femelles fossa, sont très très dominantes une fois qu'elles sont à l'âge de la maturité. Donc elles peuvent aussi embêter les jeunes femelles. Donc c'est une manière d'exhiber un organe d'intimidation finalement.
Donc on en revient toujours au côté phallique qui est associé à la domination, même chez l'espèce animale.
Oui, ça peut être un organe qui est utilisé pour intimider, effectivement.
Alors le terme technique, c'est baculum bobellum.
Oui, l'os pénien, on appelle ça le baculum, et l'os clitoridien, on appelle ça le bobellum.
Alors si on pouvait les comparer dans leur morphologie et anatomie, qu'est-ce que ça nous dit ?
Eh ben, ça nous dit réponse dans 3 ans, parce que c'est exactement ce qu'on va faire dans le projet. On va faire de l'analyse morphologique 3D des baculums et des bobellums pour voir s'il y a des coévolutions en fonction des espèces qu'on va étudier. On va essayer de recenser le maximum de mammifères pour lesquels nous disposons ces os dans les collections du muséum. Et on va faire une analyse morphologique 3D pour voir si certains de ces os chez les femelles ont évolué en fonction des os masculins et inversement. Et si c'est lié à l'écologie des animaux et à leur comportement sexuel. Parce qu'il y a plein de comportements sexuels différents chez les mammifères. Il y a de la monogamie, il y a de la polygamie, il y a du harem, il y a du matriarcat. Donc on va voir si justement il y a des morphologies qui sont associées à certains comportements sexuels chez les mammifères.
Et voilà donc un aperçu évolutif de l'apparition et de la fonction du clitoris dans le règne animal. Une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Sylvie Chaperon ?
Oui, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai hâte d'être dans 3 ans là pour avoir les résultats de ces travaux. Et ça m'a fait penser à Kobelt, donc cet anatomiste allemand du 19e siècle qui a beaucoup publié, enfin écrit un ouvrage majeur sur les organes génitaux et le clitoris. Et alors lui, il pratiquait l'anatomie comparée. Alors il faisait pas de l'évolutionnisme, mais de l'anatomie comparée. Alors il faisait beaucoup d'études sur les juments, sur les chiennes, et ça a même induit son raisonnement en erreur, puisque chez ces espèces-là, enfin c'est ce qu'il dit en tout cas, le clitoris descend vraiment vers l'ouverture vaginale et donc est stimulé par la pénétration. Et il a supposé qu'il en était de même chez les femmes, et il a affirmé donc que l'érection clitoridienne abaissait le gland du clitoris vers l'ouverture vaginale pour être stimulé par le coït, ce qui a été répété par des générations d'anatomistes, alors même que l'érection clitoridienne ne fait pas bouger le clitoris, il reste à la même place. Donc voilà, c'est intéressant ce parallèle, j'ai trouvé.
Laura Berlingot sur ce reportage.
Ouais. Moi, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit aussi sur la dualité qu'on met d'un côté le clitoris pour le plaisir, et puis d'un autre côté la reproduction. Et quand elle dit, on n'est pas sûr de ça, et on a l'impression que chez les hyènes, notamment, ou chez certains animaux, finalement, le clitoris a aussi son utilité dans la reproduction. Je trouve ça intéressant aussi de sortir un peu de ces dualités, et que certes, c'est pas parce que la reproduction n'a pas besoin de plaisir, et que on est aussi capable de faire de la reproduction par PMA, et que c'est très bien pour les personnes qui ont accès, peut-être qu'il y a quand même aussi un lien, et un lien qu'on ne connaît pas bien chez les humains, qu'on ne connaît pas bien chez les animaux, mais qui existe peut-être.
Il y a une étude intéressante de 2016 qui postule que le clitoris aurait servi dans un premier temps, en fait, chez des mammifères il y a plus de 60 millions d'années, à déclencher l'ovulation, et puis petit à petit l'ovulation est devenue cyclique, et donc le clitoris s'est éloigné justement du vagin. Est-ce que vous avez une opinion, ou en tout cas des informations à ce sujet que vous pourriez confirmer, Laura Berlingot ?
Alors, une opinion, je pense que c'est une opinion sur ce genre de... Effectivement, j'ai vu passer... je vois ce dont vous parlez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut complètement découpler, et que finalement, oui, ça a peut-être été comme ça, mais le fait est que aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas besoin de plaisir pour avoir une ovulation. Cependant, on peut se demander si dans des conditions non expérimentales, enfin non labo, quoi, dans des conditions réelles, est-ce que il n'y a pas un lien entre les deux ? On ne sait pas vraiment, mais c'est une piste en tout cas qu'on pourrait développer.
Sylvie Chaperon.
Ben c'est sûrement une piste à creuser. Ceci dit, il y a des mammifères dans lesquels c'est effectivement la pénétration et qui déclenche l'ovulation. Ça reste. C'est-à-dire, il faut voir dans ces espèces-là, la lapine, si je ne m'abuse, j'en sais rien, je crois. Il faut voir dans ces espèces-là s'il y a une connexion qui reste et qui demeure plus forte. Je ne sais pas. Ça peut donner lieu à des travaux intéressants.
Un mot également sur peut-être sur la recherche aujourd'hui, sur ce que l'on sait en termes d'origine embryologique du clitoris, Laura Berlingot. Comment est-ce que le clitoris se forme chez l'embryon et quelles sont les mécaniques de différenciation finalement au niveau fœtal, puisque on sait que les organes génitaux humains dérivent de structures uniques qui sont indifférenciées à l'origine.
Oui, alors tout ça dérive de ce qu'on appelle le tubercule génital. Le tubercule génital, donc c'est effectivement embryologique. Il y a plusieurs niveaux à l'embryologie, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi à l'échographie. Au premier trimestre, on voit un petit tubercule qui apparaît, qui après se différencie. Et quand on parle de différenciation sexuelle, il ne faut pas oublier aussi qu'on reste dans une représentation, quand on en parle comme ça, de clitoris et de pénis, qui est assez binaire, puisqu'on sait que voilà, du même tubercule génital dérive d'un côté le pénis, de l'autre côté le clitoris, mais que ces deux structures sont aussi les deux structures extrêmes et qu'entre les deux, il y a aussi des intersexes qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on décrit du pénis ou du clitoris, et avec voilà, des pourcentages qui sont très variables selon comment on définit les intersexes, et notamment les médecins et les militants ne se mettent pas d'accord sur ce pourcentage. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y a des ce qu'on peut appeler en médecine, on appelle ça des variations de la normale, ou même parfois certaines pathologies, hein, quand ça fait d'autres conséquences que juste l'aspect des organes génitaux externes, qui peuvent, enfin voilà, qui existent dans tout ce panel.
Oui, avec sur la question de l'intersexuation ou de l'intersexualité, plutôt le problème qui a été soulevé de la réassignation à la naissance et qui est effectivement un vrai problème et contre lequel un certain nombre de personnes aujourd'hui se mobilisent pour éviter ces réassignations sexuelles de force. Un mot peut-être pour prolonger cette discussion, en fait, à quel moment et qu'est-ce qui se passe en fait physiologiquement justement pour qu'il y ait différenciation à partir de ce tubercule sexuel et quelles sont les mécaniques? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui ça très bien qui font qu'à un moment donné, bien les garçons dans les logiques majoritaires développent un pénis et les filles un clitoris?
Bah, j'essaie de faire ma phrase en bon ordre. Dans la différenciation sexuelle, on sait que c'est déterminé donc par les chromosomes, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a les chromosomes XX, qui correspondent aux chromosomes féminins, XY, donc plutôt les phénotypes masculins, et que à partir de ça, il y a tout un processus, voilà, de différenciation à partir des chromosomes, mais que il y a des personnes qui ne correspondent pas à ces chromosomes XX ou XY, et que une fois que même passé les chromosomes, en fait, il y a d'autres niveaux de différenciation, et notamment au niveau hormonal, au niveau gonadique, et que on sait que des insensibilités, quand même, par exemple aux androgènes chez des personnes XY, ça va provoquer des phénotypes. Donc, quand on parle de phénotypes, c'est l'aspect externe des organes génitaux qui seront différents. Voilà, il y a plusieurs niveaux de différenciation des caractères sexuels, qu'ils soient internes ou externes, et il y a plusieurs moments dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a au moment de l'embryologie, in utero, dans le ventre, puis aussi après dans l'enfance et à l'adolescence.
Sylvie Chaperon, peut-être un mot en règle générale, des considérations soit sur ces développements embryologiques, soit justement sur ces personnes qui sortent avec un statut d'intersexué et qui rencontrent ce problème justement de la réassignation de sexe à la naissance.
Oui, alors ça a été aussi tout un courant d'histoire, hein, l'histoire de l'hermaphrodisme, l'histoire de la façon dont on a conceptualisé les intersexes, hein, et qu'on appelait les hermaphrodites autrefois, la façon dont on a réglé leur sort, entre guillemets, très variable selon qu'on disposait ou non de techniques chirurgicales. Et effectivement, à partir des années 60-70, les opérations de réassignation sexuelle imposées, hein, avec parfois des des séquelles lourdes, hein, des cicatrices, etc. Et j'aimerais aussi rebondir sur cette histoire de l'histoire de la sexuation et des mécanismes de la sexuation qui sont très complexes. Parce que finalement, pendant très longtemps, on n'a pas tellement progressé sur cette question-là, ou on a progressé qu'un peu, toujours parce qu'on posait des hypothèses ou des questions qui relevaient essentiellement du masculin. Donc on cherchait à comprendre comment se développait un pénis. Et donc on portait l'accent sur le chromosome Y, puis sur une partie du chromosome Y. Donc toujours, le masculin l'emporte en quelque sorte, que ce soit en grammaire ou en science, on est focalisé sur ce qui crée le masculin. Comme si il n'y aurait rien qui créerait le féminin. Donc là aussi, hein, on a le poids du genre sur la science, hein, et sur les hypothèses qu'on énonce et les recherches, les directions qu'on prend dans la recherche.
Peut-être un mot pour conclure notre entretien en cette journée internationale des droits des femmes à propos du clitoris et notamment des mutilations sexuelles qui concernent dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, encore 200 millions de jeunes filles et de femmes. Sylvie Chaperon, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en régression, qui se maintient. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que, avec bien une meilleure connaissance du clitoris, c'est aussi bien un outil pour lutter contre ces mutilations sexuelles et ces excisions qui sont pratiquées un peu partout dans le monde ?
Je suis pas du tout spécialiste de cette question-là, mais moi, ce qui m'interroge, c'est depuis le temps qu'il y a des campagnes, depuis le temps qu'il y a des actions faites localement ou par des organismes internationaux, et qu'on voit que finalement ça ne baisse pas tellement ou ça ne diminue pas tellement, ça interroge sur l'efficacité de nos politiques quand même, parce que si on retourne dans l'histoire, ça fait depuis les années 1920-1930. Alors au début, c'est dans une entreprise colonialiste, hein, que ça prend place, et évidemment, ça pouvait pas marcher comme ça. Mais ça fait depuis ces années-là qu'il y a des tentatives d'éradication de ces pratiques. Et donc, il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas dans les politiques et les politiques publiques par rapport à ça.
Laura Berlingot, sur cette question.
Oui, mais je trouve ça très intéressant. Ce que vous venez de dire, c'est qu'on était dans des politiques coloniales et qu'il y a vraiment cette idée où il y a, pour certaines cultures, l'excision, c'était le devenir femme, justement, que pour la culture occidentale, c'était contemporaine, c'était le contraire, c'est qu'on amputait, et que finalement, c'est probablement une autre lecture qu'il faut avoir si on veut lutter contre ça. Et ce que ça m'évoque, juste pour finir là-dessus, c'est que juste quand on parle de clitoris, finalement, on parle bien plus que de plaisir féminin. On ne parle pas de quelque chose. On parle vraiment de droit sexuel. Et je pense que la lutte contre les mutilations génitales féminines en fait complètement partie. De même que, voilà, que ce soit l'assignation de sexe ou l'orientation sexuelle ou les identités de genre, parler de tout ça, c'est aussi tenter de lutter contre les discriminations et les violences. Et l'enjeu est bien au-delà que celui du seul, entre guillemets, plaisir féminin.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Sylvie Chaperon, merci Laura Berlingot d'être venue nous parler du clitoris. Laura Berlingot, on peut vous lire dans Une sexualité à soi, c'est aux éditions des Arènes. Et puis un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui également que France Culture publie son podcast original Laissez parler les femmes. 8 épisodes de 30 minutes pour donner la parole à une centaine de femmes de tous âges et de toutes conditions sociales. Un très beau podcast natif signé par une équipe de choc, Pauline Chadu, Maïwenn Guiziou, Marine Beccarelli et Léa Capuano. Voilà, on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter. Je vous recommande vraiment vivement cette écoute très riche et très agréable. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Natacha Triou, Alexandre Morales, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Clément Daté à la technique. Demain, tout le monde sur Mars, après l'arrivée groupée du rover Perseverance, de la sonde Emirati à la malle, de la mission chinoise Tianwen 1. Mars, c'est the place to be du système solaire. Pourquoi tant de missions? Que peut-on en attendre? On file tous sur Mars demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.
France Culture. L'esprit d'ouverture.